Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Ouf, quand Apple balance des nouveautés, le constructeur ne fait pas semblant. Ça a été un vrai feu d'artifice hier soir avec un grand nombre de changements pour resserrer la sécurité des données des utilisateurs. On va y revenir plus en détail. En deuxième partie d'émission, pas de module vu que la partie des infos du jour est bien remplie. Mais pas de panique, il revient demain. Nous sommes le jeudi 8 décembre. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Sans prévenir, Apple a donc livré hier soir une série de nouveautés en lien avec la sécurité des données. Ça paraît un peu rébarbatif dit comme ça, mais les changements apportés sont profonds et plutôt importants. Ça commence avec la fonction de protection avancée des données. Elle permet de chiffrer de bout en bout quasiment toutes les données dans le nuage d'iCloud. Ça concerne en particulier les photos et les sauvegardes des appareils iOS qu'on peut stocker sur les serveurs d'Apple. Ça permet de les restaurer plus facilement sur un nouvel iPhone ou un nouvel iPad. Ce chiffrement, ça veut dire que personne, absolument personne à part vous, n'aura accès à ces photos et à ces fichiers. Jusqu'à présent, Apple avait la possibilité d'accéder à ces données avec une clé de déchiffrement que possédait le constructeur. Si la police le demandait, Apple pouvait de cette façon donner un accès à ces informations. Mais avec cette protection avancée des données, ça ne sera plus du tout possible. Pour l'utilisateur, c'est une protection supplémentaire, mais ça va lui demander aussi un petit effort. Pour pouvoir accéder de nouveau à ces données, en cas d'oubli du mot de passe iCloud par exemple, il devra donner une clé de vérification qui sera générée au moment de la configuration de la fonction. Cette clé, il faudra la stocker quelque part ou l'imprimer. Et en cas de perte, c'est mort, Apple ne pourra rien faire pour vous aider. La fonction permet aussi de désigner un contact de vérification, comme un ami ou un proche. Il pourra servir de clé en quelque sorte. Ça sera disponible avant la fin du mois aux États-Unis et en France probablement au début de l'année prochaine. Deux autres nouveautés ont aussi été annoncées hier soir par Apple pour mieux protéger les utilisateurs. Il y a d'abord la compatibilité avec les clés physiques du genre YubiKey, qui pourront servir de deuxième facteur d'authentification pour accéder à un compte iCloud. Cette fonction arrivera dans le courant de l'année prochaine. Enfin, il y a une nouvelle fonction de vérification de contact qui permet de s'assurer que l'on discute bien avec la bonne personne dans l'application Message. Apple peut même prévenir les correspondants que leur conversation est potentiellement mise sur écoute. À qui s'adressent ces nouvelles fonctions de sécurité ? Par défaut, iOS est un système plutôt bien sécurisé et les utilisateurs lambda, comme vous et moi, n'ont pas réellement besoin d'activer toutes ces mesures. Mais pour les personnes dont la sécurité est menacée à cause de leurs convictions ou de leur travail, ça permettra de réduire fortement les cas d'espionnage. Et la soirée n'était pas terminée avec la dernière bêta d'iOS 16.2 qui instaure une limite de 10 minutes pour AirDrop avec tout le monde. Avant, il n'y avait aucun délai pour le partage de fichiers. Alors, ça peut être intéressant pour éviter les cas de harcèlement parce que recevoir des dick pics dans le métro par des inconnus, c'est quand même assez moyen bof. Mais cette nouveauté a surtout été exigée par le gouvernement chinois. Les manifestants qui revendiquent actuellement plus de liberté en Chine communiquent par AirDrop et les autorités du pays veulent y mettre fin. Tim Cook avait été pris en flag à pas savoir trop quoi répondre quand une journaliste lui a demandé ce que ça faisait d'être à la botte de Pékin sur ce sujet. Au bout du compte, c'est le monde entier qui va y avoir droit. Les plateformes comme Amazon exploitent les données de navigation des internautes pour afficher de la publicité ciblée. Mais le bon vieux temps où il était possible de faire n'importe quoi avec ces informations est terminé. Apple limite le suivi entre les apps et les sites web par exemple, et les utilisateurs sont de plus en plus sensibilisés à ce problème. Pourtant, les plateformes ont toujours autant besoin de ces données. C'est pourquoi Amazon propose de verser 2$ par mois à tous ceux qui voudront bien se faire suivre sur Internet. Ça passe par une application et surtout par l'installation de DNS qui permettent à l'entreprise de tout savoir ou presque de ses habitudes de navigation en ligne, même si Amazon se défend d'exploiter tout ce volume de données. Autrement dit, pour Amazon, la vie privée, ça coûte 2$ par mois. Cette offre très singulière est proposée aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais ça a l'air raté pour un lancement dans l'Union européenne où on bénéficie de règles beaucoup plus strictes pour le respect de la confidentialité. On en parlait hier, l'ouverture de la boutique de réparation en libre-service d'Apple en Europe, enfin dans une partie de l'Europe, ça a été une bonne nouvelle pour le droit à la réparation, mais une bonne nouvelle qui n'a pas duré longtemps. La campagne Right to Repair, qui regroupe une centaine d'organisations européennes qui militent pour le droit à la réparation, n'a pas trop apprécié l'initiative d'Apple. Déjà, c'est vrai que le choix des appareils réparables est très limité, c'est largement insuffisant par rapport à ce que la future législation européenne va imposer aux constructeurs. Mais il est aussi reproché à Apple de lier une pièce de rechange à un iPhone ou à un Mac. Du coup, ça devient impossible d'utiliser ces pièces détachées avec d'autres appareils sans qu'Apple ait son mot à dire. Bref, il va sans doute falloir qu'Apple en fasse beaucoup plus pour satisfaire les critères du droit à la réparation comme il se prépare en Europe. C'est la fin d'une époque ou presque, et franchement, on se demandait quand ça allait arriver. Panasonic et Nikon ont en effet annoncé qu'ils arrêtaient la production de leurs appareils photo compacts. Attention, il s'agit uniquement du segment d'entrée de gamme, les modèles experts restent toujours dans la course, mais jusqu'à quand, c'est la question. Les appareils photo du type Lumix ou Coolpix sont en effet de plus en plus remplacés par des smartphones. Les téléphones disposent de capacités photo tout aussi bonnes que les compacts, et ils font même souvent mieux. Pourquoi s'embêter à avoir dans la poche deux appareils quand un seul peut tout faire ? Les deux constructeurs ont bien constaté que les ventes n'étaient plus ce qu'elles étaient. En 13 ans, les achats de compacts ont dégringolé de 97%. L'an dernier, il s'en était vendu 3 millions contre 110 millions en 2008. Alors, les réflexes et surtout les hybrides ont toujours des arguments à opposer aux smartphones, mais les prouesses des photophones les rapprochent de plus en plus des appareils photo traditionnels. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. À très bientôt pour de futures aventures.